France Inter. Leur philo. Bienvenue dans Leur philo, Lilian Alom à la réalisation, Chantal de Montagny à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Noé Chaban à la console.
Leur philo. Patricia Martin, sur France Inter.
Des mots entendus ici et là nous sont familiers. Karma, Veda, Samsara, Brahman, Yoga. Et pourtant, il nous est impossible d'énoncer à quelle exacte réalité ils se rapportent. La philosophie indienne est un océan que nous tenterons d'explorer au moins un peu dans cette émission, en compagnie d'Isabelle Ratier et de Vincent Elchinger, co-auteur d'un essai aussi passionnant que foisonnant intitulé Qu'est-ce que la philosophie indienne ? Le philosophe Roger Paul Droit.
Les vrais voyages, vous savez, ce sont des voyages mentaux, des voyages dans la tête, des déplacements de perspective. Parce que si nous allons simplement déplacer notre corps en allant en Chine, en Inde, au Tibet, à Jérusalem, dans les pays arabes, mais simplement pour changer de cuisine ou de perspective ou de climat, eh bien, nous ne faisons pas de vrais voyages. Je crois beaucoup plus utile de nous déplacer dans notre tête plutôt que de rester avec nos habitudes, qui sont effectivement des habitudes grecques, européennes, occidentales. Et ce que je veux montrer à travers ce voyage, c'est qu'il n'y a pas seulement de la philosophie en Grèce, ou en Europe, comme on nous l'a dit, on nous a rabâché cela. Il y a de la philosophie proprement dite, c'est-à-dire un examen des idées, un retour critique sur les outils de la pensée. On trouve cela différemment, bien sûr, mais en Inde, en Chine, au Tibet, dans les pays bouddhistes, au Japon, dans le monde entier, y compris bien évidemment dans les traditions juives et dans la tradition musulmane. Et là, cette idée que la philosophie n'est que grecque, elle est heureusement en train de se fissurer, y compris de manière officielle.
Namasté. Oh, je suis contente, je suis fière de moi. Ça veut dire bonjour en sanskrit, c'est ça, Isabelle Ratier?
Absolument. Si j'avais voulu, Patricia Martin.
Merci. Si j'avais voulu vous dire à vous bienvenue.
Swagatam.
Swagatam. Alors Isabelle Ratier, vous permettez que je commence avec madame.
Bien sûr,
merci
bien
monsieur. Je voudrais d'abord donc vous présenter. Vous êtes titulaire de la chaire Histoire des systèmes de pensée de l'Inde au Collège de France, excusez du peu. Vous êtes la première femme titulaire de cette chaire et je crois qu'on peut le souligner et dire aussi que le Collège de France est la première institution européenne à avoir créé une chaire consacrée au sanskrit.
Absolument, elle a été créée en 1814 et inaugurée par son premier titulaire en janvier 1815, donc ça fait un moment déjà. Cela étant dit, ça faisait 15 ans qu'il n'y avait personne qui se consacre à l'Inde au Collège de France, donc c'est un retour dont nous sommes tous, nous autres indianistes, extrêmement heureux, bien entendu.
Alors, il faut que vous nous racontiez quand même votre histoire personnelle, un petit peu, hein. Je vous rassure, je ne vais pas être indiscrète, mais vous avez commencé tout à fait classiquement par de la philosophie grecque.
Absolument, j'ai commencé par des études classiques de philosophie, j'ai passé une agrégation, j'ai enseigné au lycée, je me suis passionnée pour la philosophie européenne du XVIIe et pour la philosophie grecque. Et puis, en cours de route, il y a eu un terrible accident.
Un homme, un livre a changé
un
votre
livre,
vie.
Un livre,
non, mais écrit par un homme,
aucun
en l'occurrence.
Doute. Il s'agissait d'un homme, effectivement. Ça s'appelait, effectivement, L'Inde pense-t-elle. C'est un livre de Guy Bugot.
Ouais.
Cela dit, je suis heureuse que vous ayez donné à entendre Roger Paul Droit en préambule, parce que L'oubli de l'Inde est un essai de Roger Paul Droit qui m'a beaucoup marqué. Je crois qu'il en va de même pour Vincent Elchinger.
Mm-hmm.
C'est quelque chose qui nous nous a travaillé longuement, et je crois que c'est un essai qu'il faut lire et relire.
Mais alors donc, à partir du moment où vous vous êtes intéressé à cette philosophie indienne, vous vous êtes dit, mais il faut que j'apprenne le sanskrit.
Et oui, ça a été la deuxième étape, un peu plus douloureuse, parce que apprendre le sanskrit était une aventure assez importante, même pour quelqu'un qui s'était quand même familiarisé avec un certain nombre de langues indo-européennes auparavant, et en particulier le grec, le sanskrit. C'était quand même un choix un peu aventureux à l'époque, mais évidemment je n'ai jamais regretté, et je suis toujours au fond une étudiante du sanskrit comme une étudiante de la philosophie indienne.
C'est génial de rester étudiant toute sa vie. Vincent Tilgnal, le sanskrit, c'est la plus vieille langue du monde, non? Ou une des plus vieilles langues du monde?
Ah, certainement pas.
Non?
Non, certainement
pas. J'ai dit
une
bêtise.
C'est une langue sœur du latin, du grec. C'est donc une langue indo-européenne qui n'est même pas, comme on l'a cru au 19e siècle, la mère des langues indo-européennes, mais qui est une langue sœur, en fait. D'accord. Et qui est attestée dans des écrits, enfin dans des textes, en fait, qui remontent au milieu du deuxième millénaire.
Alors vous-même, je vais vous présenter quand même, vous êtes directeur d'études à l'école pratique des hautes études, vous y êtes titulaire de la chaire du bouddhisme indien, on va parler du bouddhisme tout à l'heure avec vous. Pourquoi est-ce qu'il y a presque une sorte de déni, en tout cas, de l'Inde philosophique? D'où est-ce que ça vient?
Eh bien, je dirais que ça vient de la fin du XVIIIe siècle ou du début du XIXe siècle, un peu paradoxalement, parce que de l'Antiquité à travers le Moyen-Âge jusqu'au temps moderne, à la première modernité, en fait, personne ne s'est jamais interrogé sur la question de savoir s'il existait de la philosophie hors de l'Europe. C'était quelque chose qui était tout à fait acquis. Lorsque vous lisez les grandes histoires de la philosophie qui ont été écrites en latin, en particulier au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle encore, il y a toujours un chapitre introductif, en fait, qui porte sur la philosophie, alors qui est assez convenu, il faut bien le dire, mais qui porte en fait sur la philosophie chez les Égyptiens, dans toutes sortes de contextes extra-européens. Et c'est à la fin du XVIIIe siècle, dans des conditions assez particulières, et certainement en Allemagne, en fait, qu'on a cherché à resserrer le concept de la philosophie pour parler, alors comme le disait Roger Paul Droit tout à l'heure, de parler de philosophie proprement dite. Et la philosophie proprement dite, ça ne peut être que la philosophie grecque. Et à partir de là, c'est une idée qui n'a plus jamais été révisé.
Parce que en Europe, en tout cas, il y a une frontière entre philosophie et religion. Et que peut-être il y a quelque chose de trop religieux, je mets ça avec des guillemets, mais dans la philosophie indienne. Isabelle Ratier.
Alors, en tout cas, il y a une histoire de cette frontière entre le religieux et le philosophique. Disons que à un certain moment, pour résumer, au XIXe siècle et plus encore dans la première moitié du XXe siècle, on a décidé d'établir une frontière parfaitement étanche entre le religieux et le philosophique, même s'il y a des racines à ça plus anciennes. Et on a décrété que la philosophie, c'est ce discours qui procède uniquement en s'appuyant sur l'expérience commune et sur la raison, et qui fait table rase de toute forme de croyance et de toute forme d'adhésion à l'idée d'un texte sacré, par exemple. Et de ce point de vue-là, évidemment, l'Inde, vue de loin, apparaissait comme un pays où il ne pouvait pas y avoir de philosophie, parce qu'il y avait, dans ce pays-là, une extraordinaire profusion de traditions religieuses, au contraire, traditions concurrentes, très différentes les unes des autres, mais toutes avec leurs écritures, donc avec des textes considérés comme sacrés, comme faisant autorité par principe.
Mmh. Mais on ne peut pas réduire non plus, ce qu'on fait très certainement dans le grand public, la philosophie indienne, la pensée indienne à de la méditation, à une sorte d'expérience mystique,
absolument
au silence,
pas.
Etc. C'est impossible.
Absolument pas, et de ce point de vue-là, je crois que ce qu'on a longtemps manqué à propos de l'Inde, vue d'Europe, c'est justement le fait que, paradoxalement, c'est cette profusion de courants religieux, porteurs de dogmes inscrits dans des textes considérés comme faisant autorité par principe. Cette profusion-là a très tôt mis ces courants en concurrence les uns avec les autres, en rivalité, parce qu'il fallait pouvoir s'assurer les faveurs des rois, des grands dignitaires, des cours royales, pour bénéficier des largesses de puissants patrons. Mais pour faire cela, il fallait prendre part à des disputes publiques dans les cours royales, et pour pouvoir prendre part à ces débats, eh bien, il fallait que chacun mette de côté l'autorité de ses écritures, puisque chacun de ces courants religieux, bouddhiques, jaïnes, mais aussi, alors ce qu'on appelle aussi des mouvements hindous, mais en oubliant que dans l'Inde ancienne et médiévale, ces mouvements hindous n'ont pas encore d'unité, ils sont en fait très différents les uns des autres, et tous ces mouvements-là ont dû mettre de côté l'autorité de leurs textes sacrés et n'employer que des arguments universellement recevables, c'est-à-dire en fait fondés sur l'expérience que chacun peut faire et sur la raison. Et donc c'est dans cette rivalité-là que s'est construit une sorte d'espace neutre dans lequel on a pu discuter de tout, discuter de la totalité de l'existence. Et c'est ça que Vincent Elchinger et moi-même appelons philosophie indienne.
Mais est-ce qu'il faut beaucoup se décentrer, par exemple, pour un logiciel occidental tel que le nôtre, pour appréhender les choses, Vincent Elchinger? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pourriez en dire? Est-ce que, je sais pas, oui, il faut... D'abord, il y a une complexité folle en fonction des différents courants, mais est-ce qu'il ne faut pas essayer de changer un tout petit peu ses propres réflexes
Certainement.
Intellectuels?
Et je crois que cet apprentissage commence dès l'apprentissage du sanskrit, en fait. C'est-à-dire que c'est une nouvelle civilisation, c'est une nouvelle grammaire d'une civilisation qu'il nous faut apprendre, en apprenant à désigner les choses du quotidien, avec des partages qui ne sont pas nécessairement ceux dont on a l'habitude. Et ainsi en va-t-il évidemment aussi de la philosophie. Donc, mais évidemment, un bagage en philosophie, en particulier philosophie occidentale, vous aide considérablement à repérer les problématiques, à les comparer le cas échéant, en tout cas d'une façon propédeutique. Mais il y a un travail de décentrement qui est important, et moi j'ai le sentiment souvent de penser plus, au fond, intellectuellement et philosophiquement désormais comme un Indien, ou en tout cas comme un Indien bouddhiste, que comme un occidental, au sens où j'ai passé plus de 30 ans désormais dans ces textes, avec des mécanismes, des procédures logiques en particulier, ou de démonstration, qui sont assez spécifiques, même si elles rejoignent parfaitement en fait les procédures de la... en tout cas les principes de la logique occidentale.
Quand on a découvert la pensée indienne en Europe, il y a eu une sorte d'abord d'intérêt, voire même de fascination, et puis après il y a eu un stop.
Oui, certainement. Le mouvement romantique en particulier, c'est passionnant pour l'Inde, dans lequel il voulait voir l'origine de tout, et vous mentionniez cette idée que le sanskrit est la langue mère de toutes les autres, et ça c'est une idée qui est très romantique. On voulait chercher dans l'Orient, et dans l'Inde en particulier, la matrice de toute civilisation, de toute sagesse et de toute langue. Et cette vision fantasmatique de l'Inde a eu son retour de manivelle, en quelque sorte, et après cette question fébrile des origines, dont on a bien vu que scientifiquement elle ne tenait pas debout, en particulier avec les travaux de Franz Bopp sur les langues dites indo-européennes dont parlait Vincent tout à l'heure, il y a eu cette espèce de mouvement de recul horrifié, puisqu'on ne pouvait pas trouver l'origine de tout en Inde. On a en quelque sorte jeté le bébé indien avec l'eau du bain romantique, et on s'est écarté de l'Inde. Mais puisque vous parliez de très justement de la nécessité d'un décentrement. Je crois qu'il faut ce décentrement à la fois quand on s'intéresse à la définition de ce qu'on entend par la philosophie, mais aussi pour ce qui est de ce qu'on entend par religion. Parce que l'une des choses, je crois, qui ont beaucoup déstabilisé les Européens lorsqu'ils se sont trouvés face à cette découverte de la pensée indienne, c'était le fait que ce qu'ils avaient compris comme étant l'essence du religieux n'était pas du tout, ne correspondait pas du tout à leurs attentes en Inde. Par exemple, parce que le bouddhisme, comme religion, nie l'éternité de l'âme et nie la nécessité d'un dieu créateur. Si bien qu'on a voulu, au XIXe siècle, voir dans le bouddhisme, au fond, un terrible dévoiement du discours de son fondateur, parce qu'on pensait que le Bouddha n'avait pas pu nier la réalité de l'âme, parce que ça, c'était l'essence de ce qu'on pensait être la religion. Mais en fait, ça vaut aussi pour les courants qu'aujourd'hui on appellerait hindous, par exemple le cœur de l'orthodoxie brahmanique, qui sera plus tard ce qu'on appelle l'hindouisme, est athée. Alors c'est un athéisme qui ne va pas jusqu'à nier la réalité de toute divinité, mais qui nie farouchement l'existence d'un dieu créateur. Et en fait, à l'époque classique, cette mimamsa, donc cette tradition orthodoxe brahmanique, ne considère les dieux que comme des noms qu'il faut prononcer de manière correcte dans le rituel pour que le rituel ait une efficacité. Donc voilà une religion dans laquelle le centre n'est pas une divinité, mais le sacrifice, qui n'est pas, comme dans d'autres religions, un simple médium qui permet d'accéder à la divinité, en quelque sorte. Et de même, la parole du Veda, dans cette tradition-là, n'est pas sacrée parce qu'elle émanerait d'une divinité. Au contraire, elle est sacrée parce qu'elle est incréée. Elle n'émane de personne, pas même d'un dieu. C'est une sorte de parole éternelle autoposée. Donc voilà une religion dans laquelle aucune place pour la divinité qui puisse ressembler à ce que connaissaient les grands monothéismes ne pouvait être trouvée. Et voilà qui gênait considérablement les Européens qui se trouvaient face à cette pensée à la fois religieuse et philosophique.
Qu'est-ce que la philosophie indienne, un sujet aussi vaste que passionnant sur France Inter. C'était David Walters dans leur philo. En Inde, il y a une tradition importante, une tradition manuscrite, j'entends. Ces manuscrits ont tous été conservés, oui, non, où sont-ils? Est-ce que vous avez pu y avoir accès, Isabelle Ratier?
De manière très inégale, c'est-à-dire que pour certains textes, on a des centaines de manuscrits, voire même davantage. Pour d'autres, il ne nous reste qu'un seul manuscrit incomplet, un manuscrit à trous, voire des fragments qui ont survécu dans les marges d'un autre manuscrit ou dans la citation d'autres auteurs. Donc, on a une très grande inégalité de ce point de vue-là, et hélas, les textes les plus intéressants ne sont pas toujours ceux qui sont les mieux conservés. Et puis, posséder les manuscrits d'un texte, ça n'est pas toujours avoir l'assurance d'avoir ce texte dans son intégralité, au sens où quand on a une tradition manuscrite, et en particulier une tradition manuscrite aussi riche et aussi ancienne que celle de l'Inde...
Avec des scribes qui étaient des savants.
Avec des scribes, alors, qui dans certaines régions étaient des savants, dans d'autres, c'était plutôt des gens payés à la ligne, en fait, et qui ne comprenaient pas nécessairement ce qu'ils écrivaient. Mais quoi qu'il en soit, que les scribes soient des savants ou qu'ils soient des scribes professionnels payés à la ligne, évidemment, quand on transmet un texte de manière manuscrite, il s'ajoute avec chaque manuscrit nouveau des fautes, des erreurs de manière mécanique. Et évidemment, quand on a une transmission sur 1000 ans ou davantage, eh bien, ça donne un texte qui est profondément corrompu. Et donc, le travail des philologues, le travail que Vincent et moi effectuons chaque jour, ça consiste à essayer de corriger les erreurs qui se sont accumulées.
Alors, vous avez dit corrompu, le mot est fort, la corruption des manuscrits, Vincent Oettinger, c'est ça? C'est ce que vient de dire Isabelle Ratier, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a tellement d'annotations qu'on ne sait plus distinguer le vrai du faux.
Bon, qu'on ne sait plus distinguer le vrai du faux, peut-être pas toujours à ce point, disons, mais c'est vrai que la transmission est extrêmement longue, qu'elle passe dans des mains extrêmement multiples, dans des contextes qui sont très très multiples, avec des intérêts qui peuvent être parfois assez multiples aussi. Et ça introduit effectivement dans le processus de transmission un certain nombre de divergences, de variantes, de lectures différentes, etc., entre lesquelles il faut pouvoir évidemment trier sur une base, je dirais, essentiellement savante, mais il y a dans certains cas, dans les cas les plus favorables, des mécanismes, je dirais, des procédures au fond presque mathématiques, on parle parfois de sthématiques, en fait, pour trier parmi ces variantes. J'ajouterais peut-être juste une toute petite chose concernant les manuscrits, c'est que une bonne partie des manuscrits qui sont en notre possession aujourd'hui, en tout cas pour les plus anciens d'entre eux, viennent souvent des marges de l'Inde, en fait. On découvre encore aujourd'hui, dans les régions de ce qu'on appelait anciennement le Gandhara, c'est-à-dire le Pakistan actuel, l'Afghanistan actuel, des manuscrits qui sont les plus anciens manuscrits indiens, en fait. Ils sont proprement indiens, ce sont des manuscrits en sanskrit, ou parfois, et plus souvent en Gandhari, qui datent, pour les plus anciens, du 1er siècle avant notre ère. Donc c'est vraiment quelque chose de très très ancien, étant donné la durée de vie moyenne d'un manuscrit en Inde même, qu'on estime généralement à 200 ans à peu près, étant donné les conditions climatiques, les conditions de... Voilà, de...
Et est-ce que le numérique va pouvoir changer un peu la donne?
Certainement. À supposer évidemment que le numérique dure.
Bon, d'accord. Le regretté Peter Brook, qui a mis en scène le Mahabharata à l'occasion du Festival d'Avignon, le spectacle à l'époque durait 9 heures. Spectacle, texte plutôt, adapté par Jean-Claude Carrière. Peter Brook.
Il y a presque 3000 ans, en Inde, on craignait comme aujourd'hui la fin du monde. L'humanité était en train de se dévorer, de se détruire. Et un auteur qui s'appelle Vyasa, peut-être il a existé, peut-être il n'a pas existé, peut-être il y en a plusieurs, ont conçu un poème qui est devenu une immense épopée qui montrait comment traverser les périodes les plus noires, les plus dures de l'histoire. Alors ce poème, depuis, est devenu partie intégrale de la vie de tous les Indiens, de tous les niveaux, de toutes les classes. C'est une œuvre à la fois de la plus haute spiritualité, d'une grande qualité dramatique et abordable, ouvert à tout le monde. Et pour des raisons très difficiles à comprendre, cette œuvre est restée presque inconnue par l'Europe, à part quelques spécialistes.
Le Mahabharata, donc une légende indienne, Brook disait que c'était entre la Bible d'un côté et Shakespeare de l'autre. C'est une... Vous ne semblez pas, vous faites une grimace, Vincent Oettinger. C'est pas ça pour vous? Qu'est-ce que c'est, en fait? C'est une épopée sanscrite?
C'est une mythologie hindoue? C'est l'une des deux grandes épopées indiennes, née probablement dans des conditions qui sont tout à fait obscures dans les derniers siècles avant notre ère. L'autre étant le Ramayana.
Donc beaucoup plus tardivement que ce que disait Peter Brook.
En fait, la chronologie de ses œuvres est à peu près impossible à établir. Lui part du principe que quelqu'un, c'était l'avis de Madeleine Biardot, évidemment, que quelqu'un, enfin qu'un dénommé Vyasa, en tout cas, était responsable du projet initial. Plus personne n'est sûr de tout ça. En fait, tout ça se perd un petit peu dans la nuit des temps. Et en fait, se développe entre le deuxième siècle avant notre ère et environ le quatrième ou le cinquième siècle de notre ère. Donc c'est un processus d'élaboration, de gestation extrêmement long, dans lequel il faut tenir compte évidemment de variantes régionales extrêmement importantes, parce que ce sont aussi des choses qui, en fonction des intérêts locaux, des intérêts divers, politiques notamment, est confiée à des aides, au fond, à des chantres d'une certaine façon, qui peuvent adapter le texte en fonction des besoins, d'où la création. Enfin, on a cherché à faire une édition critique de ce texte, qui est un projet gigantesque, et probablement voué à l'échec dès le départ, mais on a un texte critique de tout ça qui effectivement fait tri en fait des variantes du sud, du nord, etc. Mais c'est une épopée qui est d'une certaine manière, qui fixe d'une certaine façon un premier visage de ce qu'on est convenu d'appeler l'hindouisme.
Mais on peut dire que c'est une mythologie hindoue.
Alors ça comprend effectivement toute une série de mythologies. Georges Dumézil avait même cherché à y trouver un certain nombre de motifs indo-européens en particulier. Mais c'est un poème qui narre, en fait, je dirais, moins des épisodes mythologiques. Bon, c'est si gigantesque qu'en même temps c'est une encyclopédie. Donc on y trouve des portions qu'on dit didactiques, qui portent par exemple justement sur l'apocalyptique, d'autres portent sur les questions de salut. Mais il y a quand même une trame narrative dans ce texte qui est en fait l'opposition l'opposition dramatique que se voue en fait des cousins, deux clans en fait de cousins, et la guerre au fond qu'on a souvent qualifiée d'apocalyptique en fait qu'ils se livrent et qui voit apparaître un certain nombre de, en particulier à travers Arjuna et Krishna, justement la Bhagavad Gita, qui intervient justement pour calmer au fond les doutes que peut avoir Arjuna avant le combat, précisément parce qu'il va être amené à tuer certains de ses cousins, ce qui lui pose un problème de conscience, un dilemme particulièrement important.
Mais quand Peter Brook parle de Shakespeare, il n'a pas complètement tort, non ? Ça ressemble un peu à ça, hein, c'est ça. C'est la tragédie shakespearienne. Quand vous parlez de portée politique, la politique, c'est quoi ? Ce sont des monarchies, en fait. Alors, c'était pour plaire au prince en place. Il y a une sorte de portée comme un Machiavel, pratiquement. Vous pouvez donner des conseils aux gouvernants.
Tout le discours politique indien, en fait, contrairement à ce qu'on dit parfois, en fait, est essentiellement effectivement arrimé à des conceptions monarchiques, aristocratiques monarchiques. Chacune des différentes composantes de la vie religieuse ou philosophico-religieuse de l'Inde, en fait, cherche effectivement, comme l'avait dit Isabelle tout à l'heure, à s'attirer au fond les faveurs de différents souverains, de différentes dynasties. Les souverains eux-mêmes ont souvent une grande plasticité, en fait, dans leur politique de patronage. Ils peuvent donner aux bouddhistes, ils peuvent donner aux brahmanes en particulier, donner en espèces, donner en village. Enfin voilà, il y a toutes sortes de modalités, en fait, de patronage. Mais il faut s'attirer leur bonne grâce, en particulier lorsqu'on ne peut plus compter peut-être sur le patronage des marchands, des riches marchands, comme ça a été le cas du bouddhisme durant de très nombreux siècles. Et évidemment, ça reconfigure en bonne partie, ou c'est susceptible en tout cas de reconfigurer en bonne partie, le discours que tiennent ces religions. Il faut aussi bien considérer que le bouddhisme en particulier, c'est une religion qui coûte abominablement cher, puisqu'elle a des institutions dures, de grands monastères, n'est-ce pas, qu'il faut restaurer, qu'il faut agrandir. Ça coûte énormément d'argent. Et effectivement, les donations princières sont d'un intérêt tout à fait capital.
Mais justement, puisqu'on parle de bouddhisme, il y en a un qui est bien connu pour ça, en tout cas ici, c'est Mathieu Ricard.
Karma, ça signifie en sanskrit action. On réserve le nom de karma aux actes qui sont motivés par des intentions. Soit des intentions bienveillantes, de faire le bien d'autrui, soit des intentions malveillantes, qui souhaitent nuire à autrui, soit des intentions neutres. Donc le karma, c'est en fonction de l'idée, quels vont être les résultats de nos pensées, de nos paroles et de nos actes, lorsqu'elles sont inspirées par l'animosité, la haine, la jalousie, l'arrogance et l'attachement, c'est-à-dire de la souffrance. Et quels vont être les résultats de nos actes s'ils sont inspirés par la bienveillance, par l'humilité, par le non-attachement, la liberté intérieure, par la paix intérieure, et qui vont se traduire donc par l'accomplissement du double bien d'autrui et de nous-mêmes. Donc le karma, c'est cela. Alors simplement, dans le contexte du bouddhisme, où on n'envisage pas simplement une seule existence, du fait qu'on, considère que le continuum de la conscience se poursuit au travers de différents états d'existence. Donc là, c'est la spécificité du bouddhisme, et ça diffère évidemment des vues qui prévalent dans la science. Eh bien, il se peut que les conséquences de nos paroles, de nos actes et de nos pensées puissent trouver leurs fruits dans un avenir plus ou moins lointain.
Alors c'est Mathieu Ricard qui nous éclaire là-dessus, mais on compte aussi sur vous pour nous expliquer ce que c'est que le vrai bouddhisme, c'est-à-dire peut-être pas le bouddhisme passé à la moulinette occidentale. On compte sur vous pour nous éclairer. Alors je crois, Vincent Attinger, que vous êtes assez versé là-dedans. Très versé.
Disons que j'occupe une chaire d'histoire du bouddhisme indien en particulier.
Je l'ai dit en début d'émission.
Voilà, comme vous l'avez dit. Et bon, le bouddhisme indien est quelque chose de gigantesque que personne ne maîtrise de fond en comble, hein, dans tout son déploiement historique, mais dans toute sa diversité aussi doctrinale, pour ne même pas parler en fait des conditions concrètes en fait de production de ces discours qu'on découvre petit à petit, notamment grâce à des travaux archéologiques et épigraphiques en fait. Il y a une sorte de consensus savant aujourd'hui pour considérer que le Bouddha est mort. Donc
grand-chose du Bouddha.
Non, on ne sait rien. Il y a des gens qui sont plus ou moins optimistes. Je dis toujours à mes étudiants que je suis moi-même, je fais partie des pessimistes. Je pense qu'il n'y a rien qu'on puisse dire aujourd'hui de sensé sur ce que le Bouddha a prêché et pensé. C'est mon avis. C'est un avis qui est assez radical. Ce dont on dispose, en revanche, c'est un gigantesque corpus d'écritures qui sont le plus souvent, dans 98% des cas, à peu près rapportés, effectivement, au Bouddha, comme ses sermons. Ce sont ses sermons, ce sont des procédures disciplinaires, en particulier, qu'il a mises en place pour l'organisation de la communauté des moines, etc., etc. Donc on se retrouve avec un corpus qui est infiniment plus important, peut-être pas infiniment, mais enfin, très largement plus important que la Bible, en particulier, avec toutes ses composantes. C'est quelque chose d'extrêmement vaste, qui nous a été conservé dans plusieurs langues, en fait, avec des spécificités. Voilà, donc aux alentours de 400, et le bouddhisme indien s'étend à peu près jusqu'au 12e, 13e siècle, parfois même un petit peu plus loin, en fait, dans certaines poches.
Vous avez parlé de doctrine, on peut employer le mot de concept ?
Alors le bouddhisme se sert beaucoup de la notion de concept, mais c'est un bouddhisme savant, évidemment, lorsqu'il veut parler, en fait, du fonctionnement de la pensée, en particulier de la pensée conceptuelle, une sorte de noétique, n'est-ce pas? Il utilise donc ces notions de vikalpa, kalpana, mais le bouddhisme comprend en particulier un nombre considérable de doctrines. Parfois d'ailleurs tout à fait contradictoire. Les bouddhistes ont dû, étant donné l'étendue du canon, s'accommoder au fond de contradictions internes à ce canon, développer des procédures exégétiques parfois assez lourdes, toujours intéressantes, pour essayer de mettre en accord en fait ces différentes choses. Mais on a des doctrines très diverses, mais il y a une sorte de doctrine de fond. Il y a quelque chose sur quoi les bouddhistes s'entendent à peu près où qu'ils soient, pour peu qu'ils soient tant soit peu formés. Donc encore une fois, il ne s'agit pas si je puis dire, du bon peuple bouddhiste qui probablement n'existe pas en Inde, en tout cas. Il existe certainement dans d'autres contextes, mais probablement en Inde, il n'a jamais existé. Pour une raison qui est simple aussi, c'est que le bouddhisme n'a jamais eu de relais politique véritable en Inde ancienne. Mais il y a cette idée, en fait, de l'universalité de la douleur, effectivement. Le fait que les actes sont effectivement rétribués, sinon dans cette vie, en tout cas dans une vie future. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui sont tout à fait fondamentaux. Une théorie de la causalité aussi, dans laquelle les bouddhistes se sont beaucoup reconnus. Et c'est peut-être ça le cœur du bouddhisme.
Et les rapports entre le bouddhisme et le brahmanisme ?
Alors, sont très problématiques. Isabelle et moi, y travaillons depuis
ça fait
depuis
rire,
très, très longtemps. Ben oui, parce que c'est un petit peu tout notre travail depuis 15 ans pour ce qui nous concerne, mais depuis presque 30 ans pour ce qui me concerne, et Isabelle de même. Non, en fait, ce sont des. On présente volontiers l'Inde comme une sorte de patrie, d'une certaine façon, de contexte essentiellement irénique, alors qu'il ne l'est pas du tout. En fait, ce sont des traditions qui se méprisent et qui se détestent fondamentalement parce qu'elles sont dans une concurrence directe, pas seulement pour des questions de patronage. En fait, elles ont des options au fond philosophiques et doctrinales qui sont souvent extrêmement diverses. Parmi celles-ci, il y a la question dont parlait Isabelle tout à l'heure, la question du soi, en fait, la question de l'identité personnelle, d'une certaine façon, que le bouddhisme refuse radicalement. Il y a la question de Dieu, évidemment, et il y a la question des castes. Il y a la question aussi de l'autorité du Veda. Donc il y a un certain nombre de points de contentieux comme ça qui sont ces traditions sont volontiers irréconciliables.
C'est du sérieux, on l'aura compris, mais est-ce qu'il y a un peu d'humour là-dedans ?
Oui, oui. Il y a souvent un humour féroce. Les philosophes se moquent les uns des autres, ça c'est certain. Et Vincent a raison de dire qu'ils se détestent, mais ça ne les empêche pas non plus d'être fascinés les uns par les autres et de se lire énormément et de s'emprunter des idées. Et quand je dis s'emprunter, on va parfois jusqu'à voler les idées des autres.
On s'approprie les idées des autres.
Voilà, et en même temps, ces appropriations ne vont jamais sans des transformations parfois spectaculaires de telle ou telle idée. Donc il y a vraiment toute une interaction constante entre ces religions rivales. Mais peut-être pour revenir simplement on a parlé du Mahabharata. Le Mahabharata, c'est une magnifique épopée. C'est un texte qui est extraordinaire à tout point de vue pour l'histoire sociale, littéraire, religieuse.
Lu de A à Z ?
Non, je ne l'ai pas lu de A à Z, ça, je vous le promets.
Non, c'est
beaucoup trop long pour cela. Oui. Mais ça n'est pas un texte que nous rangerions dans la catégorie des textes philosophiques, par exemple. Et y compris les portions comme la Bhagavad Gita, par exemple, qui est d'ordinaire le texte que certains spécialistes autoproclamés de la philosophie indienne vont sortir immédiatement de leur poche quand on leur demande c'est quoi la philosophie indienne. Ils vont ouvrir la Bhagavad Gita et vont vous dire c'est ça. Et ça, c'est assez problématique parce que, imaginons qu'un extraterrestre, ce matin ou ce soir, débarque sur la planète Terre et demande qu'est-ce que c'est que la philosophie occidentale. Imaginons qu'on lui donne le Cantique des Cantiques, qui est un texte d'une beauté éblouissante et un texte qui est important pour différentes traditions religieuses. Bon. Mais si on ne lui donne que ce texte, cet extraterrestre qui n'entendra pas parler des dialogues de Platon, de la métaphysique d'Aristote, des méditations métaphysiques de Descartes, de la critique de la raison pure et j'en passe, va se faire de la philosophie occidentale une idée extraordinairement tronquée parce qu'il va penser que la philosophie occidentale c'est nécessairement poétique, mystique, épique, et nécessairement ça n'a pas une sorte de recul critique sur soi-même, d'usage conceptuel, comme le disait Roger Paul-Droit dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure. Et donc je crois qu'il importe de distinguer ces différents niveaux-là, de même que, comme le disait Vincent, le bouddhisme c'est une chose, et c'est une réalité religieuse, mouvante et elle-même complexe, mais le bouddhisme en soi, ça n'est pas une philosophie. Il y a des philosophes bouddhistes qui vont produire des systèmes qu'on peut dire bouddhiques, mais de même qu'en Europe, vous voyez, Descartes est chrétien. Kant est chrétien. Et pourtant, on ne peut pas dire que la philosophie de Descartes, c'est la philosophie chrétienne. Et Kant non plus, ça n'est pas la philosophie chrétienne. Donc il importe, je crois, c'est pas facile, mais je crois qu'il faut faire cette distinction.
Quels sont les grands philosophes qui se sont, pas forcément français d'ailleurs, qui se sont intéressés à la... Il y a Hegel qui s'est intéressé à la philosophie indienne,
oui,
il y en a
Hegel
d'autres.
Oui, Hegel s'est intéressé, Schopenhauer s'est intéressé, Paul Deussen, qui était un ami de Nietzsche, était aussi indianiste et s'intéressait de très près à la philosophie indienne. En même temps, on a souvent l'impression que ces intérêts sont plutôt une sorte de rencontre manquée dans l'ensemble. Enfin, je ne sais pas ce que Vincent a sans doute plus à dire que moi sur la question.
Non, je n'ai certainement pas plus à dire, et surtout étant donné ce que tu as dit récemment au Collège de France.
Dites-le, parce que nous, on n'était pas là au Collège de France, on ne sait pas.
Elle le dira évidemment beaucoup mieux que moi concernant la, notamment Husserl et la phénoménologie. Non, ce sur quoi je voulais revenir, c'est simplement qu'il y a plusieurs façons, en fait, pour un philosophe et dans l'histoire de la philosophie occidentale depuis le 19e siècle, de s'intéresser d'une certaine manière à la philosophie indienne. L'une est celle, je dirais, de Schopenhauer, effectivement, de Nietzsche, qui consiste d'une certaine manière à trouver dans l'Inde des confirmations de leur pensée, sans s'intéresser fondamentalement à ce que pense l'Inde d'une certaine façon et à la défigurer en fonction de leurs intérêts. C'est peut-être un petit peu sévère comme constat, mais c'est ce que je crois en tout cas. Et puis d'autres, comme Hegel, Hegel suivait d'extrêmement près, en fait, beaucoup plus que Schopenhauer, l'actualité, en fait, de la philosophie indienne qu'on était en train de découvrir, qu'un certain Colebrook, qui avait été un administrateur, un juge, en fait, si je ne m'abuse, un administrateur colonial, comme beaucoup à l'époque, évidemment, britannique, qui donc... a découvert d'une certaine façon la philosophie indienne, les systèmes, en particulier les choses dont nous parlons dans le livre. Et Hegel était très très au courant de tout ça. Très très au courant, et il l'intégrait dans son enseignement, il réfléchissait sur ces questions-là, beaucoup plus que ne l'ont fait les philosophes après lui.
très au courant, et en même temps, son intérêt pour l'Inde se terminait toujours par cette affirmation que finalement la pensée indienne se noie dans une espèce de fascination pour l'universel, pour l'infini, dans une sorte de vide, et parce qu'elle est incapable de s'accrocher au concret des choses, elle est incapable de s'intéresser à la singularité. Et là, honnêtement, il y avait un préjugé, un poncif épouvantable qu'en fait rien ne justifie dans les textes que nous lisons, mais un poncif qui s'est accroché très longtemps du côté européen au regard jeté sur l'Inde et qui a été encore alors confirmé par les phénoménologues postérieurs et en particulier par Husserl qui a pratiqué une sorte de césure très forte entre la pensée grecque d'un côté dans laquelle il voyait la seule forme de pensée humaine qui se soit élevée au plan de l'universel et qui se soit élevée au plan d'une activité entièrement dédiée à la raison et refusant absolument toute forme de présupposé, toute forme de croyance non interrogée. Et il a rejeté la Chine et l'Inde, dans lesquelles il ne voyait au fond d'ailleurs qu'une seule pensée, en général la pensée de la Chine et de l'Inde, on nous la donne au singulier dans ces textes-là, voilà, du côté de ce qu'il appelait le mythico-pratique, c'est-à-dire une forme de pensée qui ne s'exprime que dans le mythe et qui a toujours pour but ultime de servir des besoins pratiques. Ce qui, à mon avis, était aussi problématique du point de vue de la philosophie occidentale que du point de vue de la philosophie orientale, parce qu'en réalité, la philosophie depuis en Occident, depuis les Grecs, a toujours eu des besoins pratiques à assouvir. Et les Grecs ne se lançaient pas dans la philosophie par une sorte de pur jeu spéculatif un peu desséché comme ça. Il y avait toujours un enjeu qui était un enjeu très fort de sotériologique, c'est-à-dire qu'il y avait trait à l'idée du salut. Il fallait se libérer de quelque chose pour atteindre un état qui soit un état de bien suprême et qui permette d'accéder à la réalité au-delà des apparences, disons. Donc la vision de Husserl, je crois, était déformante à la fois pour ce qui était du passé occidental et aussi pour ce qui était du passé indien.
Bon, on a une toute petite idée de ce qui a été dit au Collège de France, là, non?
Absolument. Tout à fait.
Vous êtes bien sur France Inter, c'est l'heure philo, vous écoutez. Corner Shop sur France Inter, il est philosophe, historien et philologue, Pierre Hadeau.
Les stoïciens d'ailleurs opposaient très clairement le discours philosophique et la philosophie elle-même. Car la philosophie était pour eux un acte unique, une attitude quotidienne, constante. Non pas la sagesse parfaite, mais un exercice en vue de la sagesse, exercice dans lequel on pratiquait concrètement la logique en pensant la réalité telle qu'elle est dans la vie de tous les jours, la morale en agissant au service des autres et la physique en vivant consciemment comme une partie du cosmos. Le discours philosophique, au contraire, correspondait pour les stoïciens seulement aux nécessités de l'enseignement, c'est-à-dire à l'exposé discursif, théorique, pédagogique, exposer des raisons que l'on a de vivre de cette manière. Et dans les autres écoles, et notamment chez Platon et chez Aristote, on retrouve implicitement une distinction de ce genre pour la bonne raison que, d'une manière générale, dans l'Antiquité, le philosophe se considère comme philosophe non pas parce qu'il développe un discours philosophique, mais parce qu'il vit philosophiquement.
Voilà, j'ai dit Pierre Hadeau, il est, mais on est de toute éternité. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à cela, ce qu'on vient d'entendre, Isabelle Ratier.
D'abord, je suis très heureuse, là encore, d'entendre Pierre Hadeau, parce que le titre de notre livre était aussi un clin d'œil à son « Qu'est-ce que la philosophie antique ?» Et l'un des intérêts de l'œuvre de Pierre Hadeau, c'est justement d'ébranler la vision husserlienne de la philosophie comme attitude entièrement débarrassée de tout intérêt pratique et de tout être comme pure théorie. Qui serait coupé de toute pratique. Et ce que Hadeau a bien montré, c'est qu'en réalité, la philosophie grecque ne se conçoit jamais comme quelque chose qui serait entièrement coupé des enjeux les plus pratiques et en fait les plus essentiels de l'existence. Et évidemment, il en va de même en Inde, de ce point de vue-là.
Et justement, alors est-ce qu'on peut dire un mot des rituels ? On sait qu'ils sont nombreux en Inde, ou bien je dis une bêtise, mais que ce soit sur, par exemple, pour les offrandes, le jeûne, les récitations de mantras, c'est même des choses très quotidiennes qui font partie vraiment de la vie tout un chacun.
Certainement, et depuis la plus haute antiquité, très certainement. Alors,
dans une atmosphère religieuse, on peut parler de ça.
Dans une atmosphère qui peut être très religieuse. Enfin, c'est très variable selon les types de rites, en fait. Mais la question du rite, la question du sacrifice, de l'offrande en particulier, traverse en fait toute la réalité religieuse indienne du plus haut qu'on puisse remonter jusqu'à aujourd'hui, évidemment. Pour introduire une petite note concernant le bouddhisme, on a considéré certainement que le bouddhisme s'opposant justement au sacrifice védique, brahmanique, en fait, il était lui-même aussi peu rituel ou ritualiste que possible. En fait, on redécouvre maintenant toutes les dimensions rituelles du bouddhisme qui sont aussi tout à fait importantes.
Il est vrai.
Et en particulier à travers toute la question des mantras, du pouvoir des mots en particulier, qui est d'une importance tout à fait centrale.
Isabelle Ratier.
Et il est vrai qu'il y a des traditions en Inde qui ont cherché à dépasser en quelque sorte le plan du rite et à lui opposer une libération par une forme de gnose, par une forme de recherche, d'expérience, de pensée. Mais même ces traditions-là, en fait, ont plutôt cherché à sublimer le rituel, c'est-à-dire à l'intérioriser en quelque sorte. Et même les traditions dites tantriques, par exemple, qui fascinent aujourd'hui l'Occident volontiers, parce que l'Occident a tendance à y voir une sorte de libération vis-à-vis des contraintes sociales, rituelles, etc. Et en fait, c'est tout le contraire. Le tantrisme est un hyper-ritualisme et les courants tantriques ne sont pas moins fascinés par la dimension du rituel. Donc il y a du rituel dans toutes ces traditions, aussi opposées soient-elles sur le plan des dogmes.
Une forme d'indianité par rapport à ça, en tout cas, ça c'est certain.
Qu'est-ce que la philosophie indienne ? Un essai absolument passionnant, publié désormais chez Folio dans la collection Essais. Vincent Tinger et Isabelle Ratier, merci à tous les deux d'être venus jusqu'à nous, vous depuis le Collège de France et vous depuis l'École des Hautes Études. Merci beaucoup.
Merci à vous, Patrick Martin.